On n'a même pas d'idée, on ne sait pas ce qu'on va faire ce week-end.
C'est pas grave, on écoutera l'agité du local. Ils ont toujours de bonnes idées.
On peut se dire qu'on comprend très bien ce qu'est porter un masque. On voit tout de suite la métaphore et on s'y identifie facilement. C'est le cas quand on ne se sent pas particulièrement en position de tirer toutes les ficelles des situations de notre quotidien. Et nous sommes nombreux à fonctionner ainsi. On peut le dire, c'est tout un art. Et si on quitte la métaphore pour commencer cette émission plus sérieusement, oui, porter le masque, c'est vraiment toute une technique et ça demande du travail. Justement, la compagnie L'Espace Blanc est en résidence en ce moment au Théâtre de Laval, en phase terminale, en phase finale de la préparation de Farben, un spectacle de masques et marionnettes. On s'est faufilé dans les coulisses des répétitions. Ce qu'on ressentait en sortant de là, c'est l'envie d'assister à la toute première représentation qui aura lieu mardi 7 novembre au Théâtre de Laval. Vous l'aurez compris, dans quelques instants, on vous donne un avant-goût du spectacle Farben. Et puis un peu plus tard dans cette émission, on retrouvera l'UFC Que Choisir de la Mayenne qui nous annoncera une opération spéciale pour faire des économies sur nos contrats électricité. Par les temps qui courent, c'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Et avant de terminer cette émission, on est vendredi, vous le savez, c'est l'agenda culturel de la semaine. Et ce matin, pour nos actualités locales, on regarde les gros titres de votre hebdomadaire Le Haut en Joue. On commence avec un jeune de Château-Gontier qui est parti mercredi 1er novembre pour rejoindre Jérusalem à vélo. Un défi physique, personnel et spirituel pour Brieux, 22 ans, qui vient de finir un master en école de commerce et qui ne souhaitait pas poursuivre directement sur un CDI. Il est parti de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en Normandie mercredi, un sac à dos et deux sacoches accrochées au vélo pour un voyage de 4000 km qui devrait s'étendre jusqu'en février. Maintenant à Bazouges, Odile Menant relance un café-théâtre chez Coco Latte. En mai 2022, elle avait démarré son concept de café-théâtre au restaurant. Au coin des saveurs, estimant le lieu maintenant trop petit, la comédienne revient le 17 novembre avec un one-woman show intitulé « Elle était si mignonne quand elle était petite ». Pendant 6 ans, Odile a tenu un café-théâtre Le Rideau Rouge à Rouen, en Seine-Maritime, et aimerait retrouver ici cette ambiance si particulière. Pour terminer, Lauriane Gendry et Chloé Mercier ont imaginé ensemble un concours de chant afin de venir en aide à une petite fille du pays de Cran. Elles ont créé l'association Live Harmony dans le but d'allier passion et bonne cause. Les deux amies ont donc décidé d'organiser un concours caritatif de chant qui aura lieu samedi 16 mars à la Selle Craonnaise. Il permettra d'aider Zoé, 7 ans, atteinte du syndrome de West depuis ses 5 mois. Les inscriptions au concours sont en cours. Et c'est une bonne journée aujourd'hui puisqu'on peut vous embarquer avec nous dans les coulisses du spectacle Farben qui finit de se monter à Laval. Depuis le 23 octobre, la compagnie Espace Blanc est en résidence au théâtre. Vous pourrez découvrir ce spectacle mardi 7 novembre, je vous le disais tout à l'heure, ça sera beau et touchant. Je peux vous le dire parce qu'on a rencontré l'équipe et assisté aux répétitions. Et comme j'aime bien ne pas vivre tout ça toute seule, je vous en ai ramené un peu dans cette émission. Allez-y, écoutez.
Bonjour, donc moi je suis Cécile Givernet, je suis co-metteur en scène et co-directrice de la compagnie Espace Blanc, théâtral Roubleau avec Vincent.
Et donc je suis Vincent Munch, l'autre co. Farben, c'est une pièce qui parle de deux personnages qui sont Clara Immervar et Fritz Haber. Ce sont deux personnes historiques qui ont vécu et on suit le destin de ces deux personnages. Ce sont deux chimistes allemands du début du XXe siècle, qui était aussi de confession juive. Donc, il y a pas mal de sujets qui sont traités dans la pièce.
Nous, au sein de la compagnie, on monte des auteurs contemporains vivants. Donc ça, c'est un texte qui a été écrit par un auteur suisse qui s'appelle Mathieu Berthollet. Et donc, effectivement, au niveau des thématiques qui se sont traversées, il y a notamment la question de la place des femmes dans la société, puisque c'est une pièce qui se situe à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et donc Clara Immervar est la première femme chimiste allemande. Au cours de son parcours, elle est confrontée à la question de la place des femmes à l'époque, puisque à cette époque-là, la place des femmes était plutôt à la maison. Et du coup, il y a toute une thématique qui se déploie autour de ça et de comment est-ce qu'elle arrive à imposer son souhait de travailler dans ce secteur et de s'investir aux côtés donc de Fritz Haber qui va devenir son mari et comment est-ce qu'elle trouve ou pas cette place de chimiste aux côtés de Fritz Haber.
Toute la période avant, vous étiez dans le noir avant.
Ouais.
Là, vous serez en lumière un peu plus longtemps.
D'accord.
Quel moment vous êtes
La pièce, ça part de deux destins, de deux destins empêchés, de deux personnes en fait. Et donc Cécile a parlé du destin de Clara et le destin de Fritz Haber en fait, qui était un chimiste. Tous les deux étaient des chimistes vraiment brillants. Et lui a été empêché longtemps à cause de sa confession juive. Et donc, il y avait déjà un antisémitisme qui commençait à monter à cette époque-là en Allemagne. Et il était pleinement confronté à ça. Ce qui fait que dans la pièce, on voit que petit à petit, cette frustration qu'il a de ne pas pouvoir accéder au poste qu'il méritait, l'amène à aller de plus en plus loin. Et puis, lorsque la guerre se déclare et que sur le front de l'Est, à Ypres, l'armée allemande patine dans les tranchées, eh bien, Fritz Haber met au point un nouveau type d'attaque qui est l'arme chimique. Et en fait, il est le premier à faire une attaque à l'arme chimique de cette ampleur-là.
On va jusqu'au début de l'installation de Karlsruhe et on s'arrête. Il est toujours tellement difficile de trouver un cadeau approprié.
On fait l'installation.
Hein, comme ça, ça permet à Costia de voir les niveaux. Et je lui parle en même temps et peut-être on fera des pauses.
La Première Guerre mondiale était une guerre de tranchées. Et là, les soldats ont vu tout à coup un nuage de gaz de chlore avancer vers eux en silence. Et ça a été une mort silencieuse qui a eu lieu.
Ce qui est aussi au cœur du sujet sur le spectacle, c'est la question des dérives de la science. Voilà, parce que c'est un chercheur qui a beaucoup œuvré à côté de ça, en particulier sur la question des engrais. Donc il a eu des recherches aussi qui étaient très utiles. Mais voilà, c'est comment à un moment donné, les choses vrillent et puis prennent une autre orientation qui n'est plus du tout pour le bien de l'humanité. Et c'est ce qui crée autant de désœuvrement dans le personnage de Clara, parce qu'elle voit les recherches de son mari petit à petit glisser vers une ambition qui n'était pas l'endroit où elle voulait œuvrer en s'engageant dans cette voie-là.
Ce n'est pas une pièce documentaire. Effectivement, Mathieu Berthollet a décidé de partir de ces deux personnages qui ont effectivement vécu, mais il a pris de la liberté par rapport à ça et il en a fait deux personnages de théâtre, vraiment deux personnages au destin dramatique d'un théâtre. Et puis nous, on est allé aussi encore plus loin là-dedans. Donc finalement, c'est une pièce historique, mais il y a beaucoup de libertés qui sont prises par rapport à ça.
Mathieu, il s'en est pas tenu à une narration continue et donc il y a quelque chose qui est très déstructuré dans la manière dont Mathieu a écrit le texte et il y a beaucoup de séquences qui sont très courtes, très fragmentées et on sait jamais bien quand est-ce qu'on est dans le monde de la réalité et puis il y a plein de moments où on bascule dans la fiction et nous on voulait vraiment appuyer ce décalage entre la fiction et la réalité et c'est pour ça qu'au niveau des marionnettes, on a choisi de faire un travail au niveau des jeux d'échelle et du coup on a des personnages qui amènent quelque chose de vraiment pas réaliste. Les deux personnages principaux sont des marionnettes Bunraku, c'est-à-dire des marionnettes qui font à peu près 65 cm, qui sont manipulées à vue, mais elles sont entourées de personnages. Tous les personnages secondaires sont joués en masque, donc il y a déjà là une différence d'échelle. C'est des masques au niveau du format qui sont un peu plus grands qu'un visage humain. Donc déjà, il y a un décalage entre ces deux marionnettes-là et les personnages secondaires. Il y a un personnage important qui s'appelle l'officier, qu'on a choisi de traiter en grande marionnette de 2,50 m. L'idée c'était vraiment de jouer sur ce mélange fiction-réalité et en particulier en passant par des différences de taille au niveau des échelles.
Avec la scénographe Jeanne Joyet, on avait envie aussi que la scénographie se déploie et évolue tout au long du spectacle. Et donc, on commence au départ à travailler sur les marionnettes dans un espace très resserré. Et au fur et à mesure que l'intrigue se tisse, que le drame apparaît, eh bien, de plus en plus, le plateau s'ouvre. On prend de plus en plus d'espace. Et à la fin, on finit vraiment au grand plateau avec un mélange entre les comédiens et les marionnettistes. Tout ça se réunit.
Ça se déploie aussi à grande échelle. C'est lié aussi à l'ascension et aussi au parcours de Fritz Haber et à son ascension sociale aussi. Il y avait aussi cette envie que quelque chose se déploie au fur et à mesure au plateau, à cet endroit-là.
Non, il n'y a pas besoin du bus. En second, on le laisse là. On le misera après.
Je m'appelle Blue, je suis comédien marionnettiste et chanteuse lyrique pour la compagnie Espace Blanc. Enfin, sur ce spectacle, donc j'ai plusieurs personnages secondaires, dont un d'une ancienne cantatrice. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le chant lyrique sur cette création. Quand j'étais au conservatoire, j'avais souvent cette envie, finalement, dans du jeu au théâtre, d'avoir toujours des choses à manipuler sur scène, beaucoup de papier, puis finalement des marionnettes. Le rapport, oui, à l'objet, il est très sensible, je trouve très très beau en fait, de devoir déléguer l'énergie à la matière. C'est quelque chose qui me plaît énormément, de chercher ce lien entre la personne qui est manipulée et l'objet manipulé. C'est dans les intentions qu'on donne en fait, qu'est-ce qu'on délègue à la marionnette, qui fait que même si son visage est le même, le public peut voir si elle sourit, si elle pleure, si elle est joyeuse ou pas. Donc c'est du travail de délégation, essentiellement de savoir... dire ce qui est en nous et pouvoir le donner à une matière inanimée. Et cette façon de réussir à se mettre au second plan. Je trouve que dans cet exercice-là, que ce soit en marionnette ou même le théâtre masqué, il a ce besoin, je trouve, d'être presque en surjeu, enfin, dans le sens où il faut augmenter son niveau de jeu pour pouvoir transmettre assez d'énergie et ne jamais perdre un instant de concentration, sinon la marionnette meurt ou le masque ne fonctionne plus. On manipule plusieurs masques et marionnettes, chacun, chacune, donc faut savoir aussi passer d'un caractère à l'autre, pouvoir les dissocier. Parfois, on manipule deux personnages en même temps et nous-mêmes, on incarne notre propre rôle, donc savoir passer de l'un à l'autre.
Il y a toute une partie qui est de la rêverie dans l'écriture de ce texte. Il y a le réel et puis toute la part du rêve. Cette pièce est construite comme un flashback, c'est-à-dire qu'en fait, on commence par la fin. La pièce s'ouvre sur le suicide de Clara Himmervaar et ensuite, on remonte le fil de ses souvenirs pour découvrir comment elle en est arrivée là. Et donc, du coup, dans cette pièce-là, comme elle est faite de souvenirs, un souvenir, c'est forcément fragmentaire, c'est forcément éloigné du réel, plus ou moins. Donc, on voulait retrouver ça dans nos scénographies et dans les marionnettes. Et donc, sur la construction des marionnettes, on a demandé à une confectrice qui s'appelle Amélie Madeline de travailler sur des marionnettes qui ne soient pas totalement finies, avec la costumière aussi, Séverine Thiébaud. Comme ses souvenirs à Clara Himmervaar sont parcellaires, les marionnettes le sont aussi, et les costumes aussi. Donc, on a des marionnettes qui sont faites que d'un côté, et de l'autre côté, on voit encore le bois, les articulations, etc., dont elles sont faites.
Là, on approche de la fin de la deuxième tourne et ça va redescendre, et c'est là que vous reprenez. Ça se referme.
Si vous connaissez Émilie Simon, vous connaissez très certainement sa chanson Désert. C'est pas joyeux, mais c'est joli. Allons-y, on écoute Désert parce que c'est doux.
Désert de mon cœur.
L'UFC Que Choisir de la Mayenne nous partage ses bons plans toutes les deux semaines en chronique, mais aujourd'hui l'UFC a mis en place une opération spéciale. On a appelé Jean-Michel Guinaudeau, que vous connaissez bien, pour qu'il nous explique tout ça. Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, donc vous représentez aujourd'hui l'UFC Que Choisir, on vous connaît bien via vos chroniques au sein de cette émission.
Bonjour.
Est-ce que en quelques mots vous pouvez repréciser en quoi consiste votre association ?
Alors, l'UFC Que Choisir est la principale association de défense des consommateurs. Elle regroupe actuellement 135 associations locales, dont évidemment une association en Mayenne qui reçoit les consommateurs, les informe, les conseille et les défend quand elles ont un litige avec un professionnel.
Et alors aujourd'hui, vous venez nous présenter Énergie moins chère ensemble, l'achat groupé anti-inflation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette opération ?
Alors, cela fait déjà plusieurs années que l'UFC Que Choisir s'intéresse à l'énergie et avait monté déjà, je crois, c'est à 4 reprises, une opération d'achat groupé. Donc cette année, c'est un peu particulier, c'est un achat groupé avec un fournisseur qui s'appelle Octopus. Mais cet achat groupé est fait sur la base d'un contrat qui a été rédigé par l'association et qui donc est absolument sûr sur tous les points.
Peut-être qu'on peut souligner les avantages du coup de cette offre.
Oui, alors cet achat groupé a été passé avec une base de 12% moins cher que le tarif réglementé, avec un prix d'abonnement qui est égal à celui du tarif réglementé. Et ce qui est très intéressant, c'est que le tarif qui est défini aujourd'hui est un tarif qui est garanti pour les 2 ans à venir. Or, et tout le monde a entendu parler qu'au mois de janvier, on aurait à nouveau, sans doute, une augmentation de 10%. Donc, à partir du mois de mars, ça ferait une baisse de tarif de presque 20% par rapport au tarif réglementé, garanti sur 2 ans.
Oui, donc très avantageux par rapport à ce qui est annoncé actuellement, tout à fait.
C'est très intéressant. Et alors, en plus, Octopus, faut savoir que c'est un très grand groupe anglais qui est présent dans 5 ou 6 pays européens et qui était connu pendant un moment donné sous l'appellation de Plume Energy, qui était une société d'énergie verte et qui a très bonne réputation. Alors, en plus de ces avantages, donc 12% aujourd'hui moins cher que le tarif réglementé, Octopus propose une cagnotte si on dépense moins d'énergie que les années précédentes. Donc, il y a encore un petit plus par rapport à cette réduction de tarif.
Donc, très avantageux. Et puis, en cas de problème, vous êtes aux côtés du consommateur, évidemment. J'ai également pu voir donc les chiffres pour donner un petit peu une idée des économies possibles. Par exemple, pour un ménage chauffé au gaz consommant 3000 kWh d'électricité par an, l'économie annuelle est de 82 euros, toutes taxes comprises. Et ça peut aller donc jusqu'aux ménages habitants des logements de grande surface ou plutôt énergivores. Les économies annuelles peuvent être encore plus importantes. Et donc 399 euros pour une consommation de 15 000 kWh annuels. Donc ça peut donner un petit peu un ordre d'idée sur l'importance des économies qui peuvent être faites. Si on veut donc s'inscrire pour cette opération, où est-ce qu'il faut se rendre ?
Alors, le mieux, c'est encore de se rendre sur le site de l'association de la Mayenne. Donc, il suffit de taper UFC Que Choisir de la Mayenne, de valider, et on tombe sur un logo qui représente une petite ampoule d'électricité. Ça s'appelle Ensemble, en gros. Et là, il y a toutes les informations pour pouvoir s'inscrire. Alors, l'inscription se fait de préférence en ligne. Mais éventuellement, pour les personnes qui ne pourraient pas ou qui auraient des difficultés avec Internet, il y a aussi un numéro de téléphone que je vais vous donner si les gens peuvent noter. Donc ce serait le 09 77 55 69 93. Donc là, il y a possibilité de s'inscrire directement par téléphone à partir de la plateforme. Alors soulignons quand même que toutes les plateformes sont en France. Et donc que ce seront toujours des Français qui répondront. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que cette opération est limitée et dans le temps d'une part, puisqu'elle se terminera le 15 novembre, donc faut faire vite, et qu'elle est limitée aux 120 000 premiers souscripteurs. Octopus n'est prenant ses précautions pour ne pas se retrouver complètement débordé avec un nombre astronomique de souscripteurs. Donc limité dans le temps, donc avant le 15 novembre, même si avant le 15 novembre, les 120 000 souscripteurs étaient atteints, l'opération se terminerait. Donc voilà, c'est une opération donc de l'UFC Que Choisir pour prendre soin du pouvoir d'achat des consommateurs en matière d'énergie.
Merci Jean-Michel pour toutes ces informations.
Eh bien merci, à prochaine, au revoir.
Au revoir. Il reste le temps d'un morceau avant de passer à l'agenda culturel. Alors j'ai envie de vous faire écouter Santé de Stromae, vous le connaissez certainement, mais c'est un morceau qui fait du bien.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Victor Hugo a dit « Une pièce de théâtre, une comédie, une tragédie, un drame, cela doit être une sorte de personne. Ça doit penser, ça doit agir, ça doit vivre. » Je suis ravie de commencer cet agenda de la semaine avec les mots de Victor Hugo parce qu'au théâtre, il y a consacré 13 ans de sa vie. Et justement, à l'Entracte, à Sablé-sur-Sarthe, sera joué Lucrèce Borgia vendredi 10 novembre. Pour vous donner une petite idée, Lucrèce Borgia, c'est une femme de pouvoir aux mains tachées de sang ayant la réputation d'assassiner sans vergogne quiconque se met en travers de sa route. Un seul être semble bénéficier de sa clémence, c'est Gennaro. Bon, si vous ne connaissez pas cette pièce, vous vous en doutez malgré tout, c'est un drame. Mais ici, la pièce est mise en scène par Nicolas David de la Oulala Compagnie et vous serez surpris parce que ce spectacle mêlera d'autres disciplines que celles du théâtre. Une belle occasion de redécouvrir Victor Hugo et je le rappelle, ça se passe vendredi 10 novembre à l'Entracte. On l'a écouté ensemble dans cette émission, souvenez-vous, c'est Émilie Simon et je ne l'ai pas choisie au hasard. Cette artiste fusionne entre le trip-hop, l'électronique et la pop Émilie Simon, c'est une expérience sonore, une voix qui vous entraîne dans un endroit que vous n'aurez plus tellement envie de quitter. Eh bien, ce soir, elle est au 6 par 4 et c'est à 20h30. Bon, vous l'avez très certainement déjà noté dans vos agendas, mais comme c'est vendredi parfois, on est quelques-uns à être un peu plus lents et c'est normal. Donc je vous rappelle rapidement que la pièce Farben sera jouée pour la toute première fois dans quelques jours. Vous avez entendu les voix de ceux qui donnent vie aux marionnettes. Vous avez entendu des bribes de répétition. Maintenant, il ne faut pas louper la première de cette pièce. C'est mardi 7 novembre au Théâtre de Laval. Pour terminer cet agenda, on quitte la scène pour le grand écran. On parle cinéma avec le Festival Alimentaire. Michael Lepage de l'association Les Trois Mondes nous parle du film Croquante qui sera à la ferme de Launay à Sainte-Ligatine le 8 novembre, au cinéma Yves Robert à Évron le 9 novembre et au Trianon au Bourgneuf-la-Forêt le 10 novembre.
Croquante, donc c'est le témoignage de femmes, d'agricultrices dont deux représentantes de l'équipe de comédiennes seront également présentes alors à la fois à Évron et à la ferme de Launay chez Aline Madrid et au Bourgneuf. Je crois que les représentantes le 8, 9 et 10, les comédiennes seront présentes sur les trois événements. Donc là où on parle, on met en lumière aussi un monde sous silence, très souvent sous silence, celle des femmes en agriculture. Donc là c'est aussi un point de veille qu'on doit avoir, parce que les mutations agricoles se font aussi, je pense, notamment par des gens qui ne sont pas forcément issus du monde agricole, et souvent par des femmes qui arrivent à faire bouger les choses et qui ont une vue très différente, entre guillemets, du mâle blanc à la cinquantaine. Donc voilà, c'est très bien parce que ça fait évoluer les modèles agricoles, et il est grand temps de le faire.
Bon, ça y est, on y est, c'est le week-end, ou bientôt le week-end plutôt, chers auditeurs. Et alors l'émission de ce soir porte plutôt bien son nom puisqu'elle s'appelle Temps Mort. Elle arrive à 19h avec Amazir Amaden Guest, Maël Fouché et Pablo Bourdoiseau. Ce trio marque un temps mort dans le rap français pour revenir avec vous sur trois sorties marquantes du mois. Au même moment, vous ne l'entendrez pas dès ce soir sur nos ondes, évidemment, mais vous êtes invités à venir. Les sorcières s'installent à Ruyer-Froidfond, à Majdaillé, pour l'enregistrement de leur émission en public. Halloween est passé, mais nos sorcières font plus réfléchir et rire que peur. Ce qui est sûr, c'est qu'elles font passer un bon moment. Ça se passe à 19h au Grenier. Et pour tous ceux qui sont plus tentés par l'hibernation avec ce froid bien installé, l'autre radio vous accompagne encore et toujours avec notamment Rock Dreams ce week-end, donc samedi à 13h. L'émission s'épanchera sur Jefferson Starship, un groupe américain de rock formé au début des années 1970 par d'anciens membres de Jefferson Airplane. Dimanche, je le sais, vous serez au rendez-vous pour la bonne humeur de Sport Épique à 11h et votre week-end, vous pourrez le terminer avec On lit quoi nous, une émission qui vous parle de toutes les littératures de jeunesse des plus petits aux plus jeunes adultes, c'est à 19h. C'était encore un bon moment, votre compagnie dans cette émission L'Agité du Local. Je vous laisse ici, on se retrouve lundi à 12h15. D'ici là, et tout le week-end bien sûr, faites le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.